Après le credo, les grands conciles. Une émission proposée par Mgr Jean-Pierre Battu.
Bilan et conséquences du concile de Chalcédoine. La définition de foi au Christ élaborée par le concile de Chalcédoine a été, comme nous l'avons vu, le fruit d'une laborieuse élaboration. Elle a été composée à partir de quatre documents principaux, la deuxième lettre de Cyrille à Nestorius, canonisée 20 ans plus tôt par le concile d'Éphèse, la formule d'union de 433 entre Cyrille et Jean d'Antioche, la profession de foi de Flavien de Constantinople et le tome à Flavien du pape Saint Léon. On a donc affaire à une mosaïque de divers auteurs qui est un coup de gouvernail en direction du diphysisme, c'est-à-dire la théologie dualiste des deux natures, mais qui ne renie en rien la pensée de Cyrille. La pointe du texte est l'affirmation de la réalité maintenue de l'humanité du Christ après l'union, que le monophysisme d'Eutychès réduisait à néant. Pour cela, on a choisi d'exprimer l'humanité de Jésus par des formules aussi exactement parallèles que possible à celles qui sont déjà devenues traditionnelles pour sa divinité, de manière à poser une altérité maintenue à l'intérieur de l'unité d'un seul sujet. C'est ainsi que le Christ, déjà reconnu consubstantiel au Père selon la divinité par le concile de Nicée, est dit consubstantiel à nous selon l'humanité. Engendré du Père avant les siècles selon la divinité, il est né pour nous de la Vierge Marie selon l'humanité. Surtout, il est un seul et même en deux natures. Ce « en » en grec, lève l'ambiguïté qui subsistait dans la formule du symbole d'union entre Cyrille et Jean d'Antioche, qui affirmait simplement que l'union de deux natures s'est faite. L'expression « en deux natures » ne peut être comprise autrement que comme l'affirmation que la nature humaine subsiste intégralement après l'union. Je vous lis maintenant l'intégralité de cette première partie. À la suite des saints pères, nous enseignons unanimement à confesser un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le même, parfait en divinité et en humanité, le même vraiment Dieu et vraiment homme, composé d'une âme raisonnable et d'un corps, consubstantiel au Père selon la divinité, consubstantiel à nous selon l'humanité, en tout semblable à nous, sauf le péché. Avant les siècles, engendré du Père selon la divinité, et en ces derniers jours, pour nous et pour notre salut, de Marie, la Vierge, Mère de Dieu, selon l'humanité. Venons-en maintenant à l'expression « en deux natures » et aux fameux quatre adverbes qui l'accompagnent. Ces quatre adverbes vont permettre d'écarter aussi bien le malentendu d'Eutychès que celui de Nestorius. Contre Eutychès, on affirme que les deux natures subsistent dans le Christ sans confusion et sans changement, et contre Nestorius, qu'elles subsistent sans division et sans séparation. Rappelons en effet que Eutychès confondait les natures jusqu'à affirmer que la nature humaine avait été changée en nature divine, et que Nestorius, avant lui, les avait divisées jusqu'à les séparer, puisqu'il voyait dans l'homme Jésus une personne humaine indépendante du Verbe. Ici encore, je vous donne lecture du texte même du Concile. Nous confessons un seul et même Christ Seigneur Fils unique, que nous devons reconnaître en deux natures, sans confusion, sans changement, deux adverbes dirigés contre Eutychès, sans division, sans séparation, deux adverbes dirigés contre Nestorius. De ces quatre adverbes de Chalcédoine, la tradition a surtout retenu sans confusion et sans séparation. Ce sont en effet les plus importants, et c'est une véritable règle pour la pensée qui est ainsi énoncée. Dès que nous essayons de réfléchir à une réalité complexe, quelle qu'elle soit, il nous faut en effet le faire sans confusion et sans séparation, sans mélanger les éléments qui la constituent, car nous ne saurions plus comment elle est faite, mais aussi sans les dissocier, car nous ne saisirions plus son unité. Par exemple, il est nécessaire de savoir que l'eau est faite d'oxygène et d'hydrogène. Il ne faut pas confondre ces deux éléments, mais il faut aussi se garder de les penser séparément, car dans ce cas, nous n'aurions plus de l'eau, mais deux corps gazeux différents. Alors pardonnez-moi cet exemple qui a l'air si éloigné de notre propos. Mais il l'est moins qu'il n'en a l'air, ou plutôt il met en lumière une faiblesse de la définition de Chalcédoine. Elle donne l'impression que dans le Christ, la divinité et l'humanité sont en quelque sorte sur le même plan, sur le même degré d'existence, comme le sont les deux atomes d'oxygène et d'hydrogène qui constituent la molécule d'eau. Or, il est évident qu'il n'y a pas de commune mesure dans le Seigneur Jésus entre la divinité et l'humanité. Ce ne sont pas du tout deux atomes équivalents. Malgré cela, l'humanité du Seigneur subsiste dans son intégrité, mais on voit bien que le Concile de Chalcédoine comporte ici un risque, celui de négliger l'abîme qui existe entre l'humain et le divin, en juxtaposant l'un et l'autre. Nous y reviendrons. Pour le moment, concluons ce parcours par la deuxième partie de la définition qui récapitule ce qui a été dit en insistant sur l'intégrité des deux natures et sur leur principe d'unité, à savoir la personne du Verbe. Je cite à nouveau le Concile. La différence des natures n'est nullement supprimée par leur union, mais plutôt, les propriétés de chacune sont sauvegardées et réunies en une seule personne et une seule hypostase. Il n'est ni partagé ni divisé en deux personnes, mais il est un seul et même Fils unique, Dieu Verbe, Seigneur Jésus-Christ. Comme autrefois les prophètes nous l'ont enseigné de lui, comme lui-même Jésus-Christ nous l'a enseigné, comme le symbole des pères nous l'a fait connaître. On relèvera au passage que dans ce texte, le mot « personne » et le mot « hypostase », au terme d'un long parcours et de longs tâtonnements dans la terminologie, sont devenus synonymes, même s'ils ne sont pas rigoureusement équivalents. Il nous faut maintenant aborder les lendemains pénibles du Concile de Chalcédoine. En effet, ce concile, qui s'était voulu réconciliateur, ne cessera plus par la suite d'être signe de contradiction et principe de division. Si bien que, comme le dit un historien contemporain, toute l'histoire de la théologie et presque de l'Église dans les deux siècles suivants est l'histoire mouvementée jusqu'à la violence de la réception de Chalcédoine. Il faut préciser toutefois que ces suites funestes resteront limitées à l'Église d'Orient. C'est la raison pour laquelle les chrétiens d'Occident sont souvent très surpris d'apprendre que ces vieilles querelles ne sont pas surmontées et qu'il existe toujours des églises dites monophysites, qu'on appelle aujourd'hui plus exactement pré-chalcédoniennes, car si Eutychès était hérétique, il n'est pas du tout sûr que ces églises le soient. Elles sont plutôt restées fidèles à la théologie de saint Cyrille et rebelles au vocabulaire employé à Chalcédoine. Essayons d'énumérer les causes de la persistance de ces églises. Une première cause est leur attachement au Concile de Nicée. En effet, ces églises font remarquer que le symbole de Nicée rapporte déjà au Verbe de Dieu, dont il proclame la divinité, tout ce que fait et subit Jésus. C'est en effet le même sujet divin par qui tout a été fait, qui pour nous et pour notre salut descend du ciel, prend chair de la Vierge Marie, se fait homme, est crucifié sous Ponce Pilate, ressuscite le troisième jour, monte au ciel et reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Autrement dit, le symbole de Nicée n'a pas fait de distinction entre le Verbe et Jésus-Christ. Il a donc par avance réfuté Nestorius et donné raison à Cyrille. On peut dire, avec le théologien Alois Grillmayer, que beaucoup d'évêques de cette époque voyaient Nicée dans Chalcédoine. Ensuite, les disciples de Cyrille et plus tard de Dioscore sont très amers à l'égard du pouvoir impérial qui, selon eux, les a trahis. L'adjectif « melkite » qu'ils utiliseront pour désigner les églises fidèles à l'empereur est péjoratif. Ce terme est dérivé d'un mot syriaque qui signifie « le roi ». Les disciples de Cyrille, en désaccord avec la politique religieuse du souverain, vont de plus en plus chercher à se soustraire à son autorité. Ce sera le cas des chrétiens de Jérusalem, mécontents de leur évêque Juvénal, un disciple de Cyrille et ami de Dioscore, qui s'était rallié à l'empereur. Mais ce sera le cas surtout des chrétiens d'Égypte, auxquels on avait imposé, pour remplacer Dioscore, un évêque fidèle à Chalcédoine. À la mort de l'empereur Martien, survenu en 457, la foule d'Alexandrie assassine cet évêque et le remplace de son propre chef par un évêque hostile à Chalcédoine. C'est le début d'une longue crise entre l'Égypte et le pouvoir impérial qui amènera deux siècles plus tard le peuple égyptien à accueillir les conquérants musulmans comme des libérateurs. Aujourd'hui encore, la grande majorité des chrétiens d'Égypte, appelés coptes, sont pré-chalcédoniens et monophysites, ou plus précisément miaphysites. En 1973, le patriarche de cette église, Shenouda III, qui porte le titre de pape, rencontrait le pape romain, Paul VI, et les deux élaboraient ensemble une profession de foi qui confesse une foi identique au Christ vrai Dieu et vrai homme, tout en évitant ce qui avait suscité les plus fortes oppositions dans le langage de Chalcédoine, à savoir le langage de la personne et des natures. En voici le texte. « Nous confessons que notre Seigneur est Dieu, Sauveur et Roi de nous tous, Jésus-Christ, est Dieu parfait pour ce qui est de sa divinité, et homme parfait pour ce qui est de son humanité. En lui, sa divinité est unie à son humanité. Cette union est réelle, parfaite, sans mélange, sans commixion, sans confusion, sans altération, sans division, sans séparation. Sa divinité n'a été séparée de son humanité à aucun instant, pas même pendant un clin d'œil. Lui qui est Dieu éternel et invisible est devenu visible dans la chair et a pris la forme de serviteur. En lui sont conservées toutes les propriétés de la divinité et toutes les propriétés de l'humanité, unies d'une façon réelle, parfaite, indivisible et inséparable. » Fin de citation. On remarquera que ce texte ne craint pas de reprendre les quatre adverbes de Chalcédoine, en l'occurrence devenus six, mais que l'expression « en de nature » en est absente. Maintenant que les controverses des 5e et 6e siècles sont apaisées et que les partenaires sont devenus mieux capables de distinguer les enjeux imprescriptibles de la foi des données conjoncturelles provoquées par les mots, ils se reconnaissent mutuellement en pleine communion dans la foi au Christ par un document qui en exprime sans ambiguïté aucune le sens sans se river à des mots. L'esprit qui a présidé à la rédaction de cette déclaration commune et celui de la grande tradition du langage de la foi. Hélas, à l'époque que nous étudions, il n'était pas du tout question d'apaisement. De plus, du côté impérial, on assistait à des revirements. Un usurpateur arrivé au pouvoir en 475 réunit à Éphèse un concile qui condamne Chalcédoine. Peu après, un autre empereur, nommé Zénon, promulgue un édit de conciliation qui invite plutôt à oublier Chalcédoine. Jusqu'à l'avènement d'un autre empereur, Justin, qui restaure la foi chalcédonienne partout, à l'exception notable de l'Égypte. Enfin, en 527, le neveu de Justin accède au pouvoir. Son nom est Justinien, et il sera l'empereur d'Orient le plus prestigieux et le plus puissant, avec un long règne de près de 40 années. Nous parlerons de lui plus tard.